Radio Scénique, Éric Dotter, bonjour. Voici venir l'été et avec lui la saison des festivals. C'est ainsi avec deux spectacles présentés au festival L'Île-de-France Fête le Théâtre que nous débuterons notre programme de ce jour. C'est un festival qui débutera le 3 juillet sur trois îles de loisirs, celle de Créteil, celle de Cergy-Pontoise et celle de Port-aux-Cerises à Vigneux-sur-Seine. L'un des deux spectacles s'appelle Perception. Il est apparemment à la hauteur de la démesure de cette grande roue dans laquelle évoluent les artistes, tandis que l'autre spectacle que nous évoquerons est, semble-t-il, à échelle réduite, celle de ces petits personnages, ces little people présentés sur scène. On recevra la metteuse en scène de l'un des spectacles et le créateur de la compagnie. Ils représenteront donc les deux spectacles dont nous parlerons. C'est également avec un festival que nous achèverons notre édition de ce jour. Jérôme Vaquier reviendra en effet nous parler de sa mise en scène de La Clairière, la pièce de Stéphane Gioberti qui l'emmène au théâtre, qui l'emmène dans le théâtre, au Festival Off d'Avignon. Entre-temps, nous aurons fait un tour par le Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Nous recevrons en effet Yanowski qui montrera d'ailleurs La Louve, son conte musical le 29 juin. Vous avez le programme, un abondant programme. Alors, baissez les lumières. Éteignez vos portables, voici venir la 32e édition de Radio Scénique, votre magazine de spectacle vivant.
Radio Scénique par Éric Dotter, le théâtre sur Aligre FM.
C'est l'été, beaucoup de théâtres ferment et les spectacles partent à Avignon. Alors à l'initiative de la région, le spectacle vivant investit trois îles de loisirs franciliennes. À Créteil, à Cergy et à Vigneux, pour venir à la rencontre du public. Cette idée a 10 ans et l'Île-de-France Fête le Théâtre célèbre sa première décennie cette année. 110 représentations, 10 000 spectateurs qui sont attendus sur le lieu même où les franciliens viennent en famille pour fuir la chaleur de leurs appartements et se rafraîchir au bord des étendues d'eau. Le principe est simple. On fait venir le théâtre aux visiteurs qui, au détour d'une balade ou d'une journée passée en famille, vont peut-être être séduits par l'un de ces spectacles qui vont du cirque monumental aux marionnettes minuscules. Pour inaugurer ce festival francilien et fêter les 10 ans, une soirée exceptionnelle sera organisée le 3 juillet avec Perception, une forme circassienne monumentale pouvant accueillir 1000 spectateurs. Marika Si, bonjour.
Bonjour.
C'est la musique de votre spectacle qu'on entend sous nos voix.
Oui, tout à fait.
Vous êtes la co-autrice et la metteuse en scène de Perception. Et c'est votre spectacle qui inaugurera ce festival. Ce spectacle, c'est avant tout du cirque. J'aimerais que vous nous décriviez un petit peu le dispositif qui est assez exemplaire. C'est une espèce de roue.
Oui, tout à fait. On appelle l'oculaire. Parce que l'oculaire, elle est inspirée par l'univers quantique. Et un peu aussi les films de SF, de science-fiction. Et en fait, c'est un voyage un peu, le spectacle propose un voyage autour d'une structure qui est en diffraction permanente. Et puis, je me lance peut-être sur là, je commence, on m'avait posé une question, mais je développe un peu sur l'artistique.
Mais je vous en prie.
OK. Et du coup, le public peut assister à ces corps en mouvement qui se croisent, se cherchent, se séparent, se testent. Et dans un jeu comme ça, permanent, entre équilibre et déséquilibre. Et en fait, ces personnages, ils sont en quête de découverte. Tour à tour, ils peuvent être chercheurs, explorateurs, savants fous. Et en fait, ils permettent aussi le déploiement de ce monde suspendu qui émerge et qui se transforme petit à petit. Et finalement, quand on le regarde, on finit par perdre ses repères. Parce qu'on a le regard suspendu en hauteur.
Oui, parce que vous m'avez dit, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit « Personne n'est au sol, tout le monde est en l'air ». Il y a des circassiens, puisque c'est avant tout un spectacle de cirque, et il y a un musicien, un saxophoniste qui est là-haut, tout là-haut, sur cette immense structure.
Oui, tout à fait. L'idée, c'était vraiment de pouvoir modifier les perceptions du spectateur, de pouvoir faire émerger, comme dans l'univers quantique, une autre forme de réalité. Tout ça par des systèmes de suspension, d'accroche et cette structure aussi qui a plusieurs jeux graphiques et qui se recompose au fur et à mesure du spectacle.
L'idée, ce n'est pas uniquement la performance. C'est ce que vous m'avez dit quand on s'est entretenu hors micro ensemble. Vous m'avez dit, l'idée, ce n'est pas une simple performance, c'est une performance avec du sens. Vous avez envie de dire quelque chose, bien que vos personnages ne parlent pas.
Oui, tout à fait. Ce spectacle, il s'inscrit un peu dans l'histoire, en tout cas dans les, dans les différentes créations de la compagnie. Et quand on crée Perception, la création précédente, Accord perdu, représentait des hommes sur une sorte de radeau de la Méduse dans lequel ils tentaient de s'élever, en tout cas, une forme de... Comme si par le biais des mâts chinois, ils tentaient d'élever leurs pensées, de faire vivre leurs rêves. Et on se rendait bien compte à la fin du spectacle que finalement, ils n'y parvenaient pas. Et donc, Perception fait suite à ça en disant, si finalement, dans cet espace-là, dans le milieu qui est le nôtre, on a des difficultés à vivre dans ce monde, à pouvoir s'élever, à atteindre une forme d'idéal, peut-être allons explorer d'autres mondes. Et en fait, d'autres façons de penser, d'autres façons de bouger. C'est comme ça qu'on s'est intéressé à l'univers quantique, qui finalement remet en question tout ce qu'on dit, tout ce qu'on nomme dans le réel comme normal, comme des choses qui sont en tout cas
acceptées
et acceptées, voilà. Tout est remis en question et du coup, on trouvait intéressant cet univers-là. Donc, la structure a été inspirée par tout cet univers-là où justement les personnages explorent un nouveau monde, une autre façon d'y bouger, d'y vivre, comme une nouvelle terre possible, entre guillemets. Quoi. Bon,
Récemment, c'est un spectacle qui s'adresse évidemment à tout le monde puisque ça va être le spectacle inaugural et votre public potentiel, ça va être des gens qui passent, des gens qui sont venus exprès, des gens qui sont là juste parce qu'il fait très chaud et qu'on est au bord d'une étendue d'eau. Il y a une chose qui est évidente, c'est qu'on ne peut pas éviter le dispositif, cette espèce d'oculaire, c'est-à-dire cette roue qui tourne à l'intérieur de laquelle une autre roue tourne. Donc le dispositif impose aussi le dialogue avec le public.
Oui, tout à fait. C'est assez stupéfiant quand on est devant, parce qu'effectivement, c'est à la fois grand et métallique, imposant, et en même temps, quand elle se met en mouvement, ça devient. On se demande comment tout tient. Donc, il y a quelque chose qui interpelle. Et puis, ça crée effectivement une attention particulière. Donc, on n'est pas, nous, on joue dans l'espace public depuis presque 20 ans. Donc, on a vraiment cette habitude de public qui pose effectivement, soit le public qui s'est installé, soit le public qui passe et il se passe quelque chose, il reste. C'est chouette, quoi. C'est assez magique.
C'est une autre forme de rapport au public. On en parlera tout à l'heure avec Little People parce qu'ils ont un public tout à fait particulier. Mais comment est-ce qu'on arrive à capter ces gens qui ne sont pas destinés, ils passent, ils voient cette espèce de grande roue, ou alors ils nous en ont été informés, et ils passent là. Comment les faire rester ?
Moi, j'essaie vraiment de construire les spectacles par le biais, pas par un chemin qui soit didactique, même si effectivement on met du sens dans chaque tableau, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de faire vivre une expérience immersive au spectateur, d'aller le chercher à l'endroit de ses émotions par le corps, en fait. Le corps devient dialogue et le corps qui se met en mouvement, qui dialogue avec la matière, en l'occurrence des agrès, mais des agrès qui sont complètement transformés. C'est ce qu'on essaie de faire. Et puis j'aime beaucoup le public de l'extérieur parce qu'il y a cette espèce d'approche immédiate. C'est-à-dire qu'on joue et puis on peut se rencontrer à la fin, discuter. C'est un contact fort, direct. Les gens nous disent tout de suite ce qu'ils ont ressenti. Enfin, c'est fort, quoi.
En même temps, c'est très, très éphémère. Vous êtes là uniquement pour une date, pour la date inaugurale. C'est pas un peu frustrant ?
Non, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, sauf quand on va en Europe ou à l'international, où là on joue plutôt sur des séries. Non, on a cette habitude et on fait en sorte que nos décors justement puissent jouer ce jeu-là. Donc c'est finalement un décor qui peut paraître très imposant, mais qui ne tient que dans un, entre guillemets, que dans un camion remorque, parce qu'il y a aussi cette conscience écologique de notre façon d'emmener les décors, etc. Et de pouvoir s'installer partout. Finalement, il suffit d'un sol plat, la structure elle est aubanée à rien. Donc on se dépose, on se pose et puis on peut repartir et c'est assez facile d'accueil. Donc c'est pas...
Quasiment pas d'empreinte.
Exactement, en tout cas on tente, en effet.
Alors il y a une chose qui n'est pas absente du cirque, c'est le risque, c'est la mise en danger. Vous la maîtrisez évidemment parfaitement, la mise en danger de vos artistes.
Ah ça c'est une nécessité quand on travaille avec des structures comme ça. J'ai Benjamin qui est assistant à la mise en scène, qui est aussi le fondateur de la compagnie avec moi, qui assure lui-même, en fait lui est acrobate, donc il est au plateau, et il assure toute cette partie technique, cette partie sécurité, qui prend du temps aussi, dès l'origine du projet. C'est vrai qu'il y a un protocole de répétition particulier sur ces structures. Et puis cette question aussi de danger entre guillemets dans le cirque, ben moi je la trouve intéressante à l'endroit de la narration, parce qu'il est question de vie, de mort, de prise de risque. Donc il y a quelque chose de très vrai qui se fabrique pas. C'est-à-dire que avant de se mettre en mouvement ou de lancer une figure, il y a au cirque cet endroit où on retient son souffle, où on se dit il y a une forme d'imprévisibilité que je trouve très juste, parce que cette imprévisibilité dans la vie, elle est constante, on la vibre, et je trouve que le cirque la retranscrit très bien et très fortement. Quoi.
Comment est-ce qu'on transforme un circassien en comédien ? Alors, ils n'ont pas de texte à proprement parler à interpréter. On avait reçu ici Erwan Tarlet, qui est membre, qui faisait ses débuts dans la troupe du Moonstrom Théâtre. Lui, c'est un pur circassien, il était devenu comédien. Est-ce que vous demandez à aux participants à vos spectacles d'avoir un minimum de talent d'interprète ?
Je leur dis surtout d'être eux-mêmes. On part d'eux-mêmes, de ne pas avoir peur de l'incident, entre guillemets, parce qu'avec nos structures, c'est permanent, il y a toujours quelque chose qui va ripper, qui fait qu'on est dans une forme, là aussi, d'imprévisibilité, d'improvisation, et de faire en sorte que l'incident ou la chose imprévue soit le formidable cadeau qui permette d'ajouter des choses à la corporalité, au jeu, au sens qu'on met derrière. Ils sont toujours, chaque tableau, en fait, finalement, il y a comme une sorte de scénario en amont qui est écrit. Et à partir de chaque tableau, on construit des improvisations. Et c'est toujours, je leur dis tout le temps, n'essayez pas de trop fabriquer, venez avec vous-même. Et en même temps, les péripéties, peut-être avec les péripéties qui arrivent, là, je pense qu'on s'approche, enfin, du coup, on ne fabrique pas, ils sont ce qu'ils sont, et à partir de ça, on construit des petites choses au fur et à mesure, quoi. Et aussi d'être dans un rapport très instinctif.
Marika, si il me manque juste une petite information, donc vous faites le spectacle inaugural le 3 juillet, est-ce que vous avez une idée de l'horaire ? J'avoue n'être pas parvenu à le trouver.
Alors je
On va dire à nos auditeurs de se reporter sur le site d'Aligre FM, sur lequel on donnera toutes les informations. Marika, si je vous remercie, rappelons que votre spectacle Perception sera le spectacle inaugural du 10e festival Île-de-France Fête le Théâtre. Et vous l'avez dit, c'est une forme de Stargate. Ben justement, c'est l'occasion pour écouter un extrait de la musique de ce film. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Et dans Radio Scénique aujourd'hui, Nous évoquons les festivals de l'été et notamment le festival L'Île-de-France Fête le Théâtre, un festival qui débutera le 3 juillet dans trois bases de loisirs franciliennes. On parlait à l'instant d'une forme de spectacle monumental, mais ce festival met à l'honneur aussi des petites créatures, des little people, comme les appellent les créateurs de ce spectacle de marionnettes. Rémi Lambert, bonjour. Rémi Lambert, est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce qu'on a Rémi Lambert en ligne? Ah, et bon, on va continuer à écouter l'illustration musicale qui s'appelle Magic Loud. C'est un extrait, enfin c'est ce qui sert de tapis à Little People, ce spectacle de sa compagnie du Théâtre des Accordés. Rémi Lambert, je crois qu'on vous a retrouvé.
Oui, ça y est, j'étais là.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc cofondateur et directeur du théâtre des Accordés et interprète, oui, de Little People. Alors interprète, parce que c'est un spectacle de marionnettes, vous-même vous n'êtes pas marionnettiste, mais vous m'avez dit en préparant cette émission que vous étiez dans la partie technique, mais qu'elle était fondamentale pour ce spectacle. Parlons-en d'ailleurs de ce spectacle. C'est quoi Little People? Ça parle de quoi?
Alors, Little People, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui est toute seule et qui fait une rencontre assez extraordinaire parce qu'elle rencontre des petits êtres qui font 20 centimètres et qui l'invitent à faire une étrange tâche, une étrange cocon. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va voir que dans ce cocon, j'en dis pas plus, il va y avoir une autre rencontre à l'œuvre. Voilà.
Alors tout à l'heure avec Marika Assi, qui présentera aussi son spectacle dans le même festival que vous, parlez du rapport au public. Votre public, il est tout à fait particulier. Dites-moi à qui s'adresse ce spectacle.
Alors, Little People, en fait, nous nous adressons à des tout petits, à des enfants à partir de 18 mois. C'est un spectacle qui a été créé dans des crèches. Au contact, il y a eu 5 semaines de résidence avec les crèches. On reste très longtemps avec les tout-petits et on partage avec eux l'état de jeu et l'état d'émerveillement dans lequel qu'ils traversent à cet âge-là.
Mais comment on arrive à captiver un enfant de 18 mois? Parce que le langage, c'est encore les balbutiements, si j'ose dire. Alors comment est-ce qu'on arrive à intéresser un enfant, des enfants en groupe?
Ben, en fait, les enfants sont beaucoup plus doués que nous par rapport aux marionnettes, parce qu'ils sont totalement animistes. Eux, ils n'ont pas besoin de mots. Pour eux, tout de suite, la marionnette est vivante. Alors, dès que le pantin bouge, dès que la marionnette est présente, eh bien, eux, ils se projettent directement dans leur monde. Donc, ils ont moins besoin de mots que nous. Voilà.
Alors, vous m'avez dit aussi, en préparant cette émission, qu'il y avait quelque chose qui marchait du feu de Dieu, c'était « Coucou, je suis là, coucou, je suis plus là ». L'apparition et disparition, c'est quelque chose qui marche très bien auprès de ce très jeune public.
Oui, ben c'est un jeu qui s'appelle le cachet-coucou, qu'on connaît tous, mais qui est beaucoup moins innocent que ce que l'on croit, parce que en fait, pour l'enfant, quand c'est caché, ça n'existe plus, et quand c'est là, c'est comme si ça n'avait jamais existé. C'est vraiment une rencontre, comme si c'était la première fois. Et donc, en fait, il y a quelque chose de très émotionnel, de très émotif. Dans le voilement, le dévoilement, et ça c'est vraiment le théâtre, le rideau du théâtre, il cache et puis il dévoile. Et ça on y joue et on peut y jouer à des proportions beaucoup plus à leur taille grâce à une scénographie qui est faite pour eux.
Alors ces enfants, ils sont forcément accompagnés d'un adulte, comment on arrive à intéresser l'adulte aussi? On lui met des codes que lui peut comprendre? C'est un spectacle à deux niveaux?
Bien, en fait, il faut surtout pas avoir un propos infantilisant. Il faut vraiment avoir un propos qui peut être universel à la fois pour les adultes et pour les petits. Ce qu'on dit, nous, c'est que quand un spectacle est jeune public, en fait, il est tout public, jeune public. Parce que la première personne qui va faire entrer l'enfant dans l'univers du spectacle, c'est l'accompagnateur. Donc, si lui-même n'est pas rentré dans l'univers, eh bien, on a loupé le coche, quoi.
Alors, on n'a pas eu le plaisir de voir votre spectacle, mais apparemment, il y a une tyrolienne, il y a une apparition, il y a des apparitions qui viennent du sol, du ciel, ça arrive de partout. C'est quasiment de la magie, la marionnette, finalement.
Ah ben oui, il y a beaucoup, beaucoup de cousinage avec la magie, effectivement. Nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est qu'effectivement, le ciel les trappe par le sol, fasse émerger, fasse surgir des nouvelles surprises. Parce qu'effectivement, l'enfant, son intérêt est tout de suite renouvelé parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Et en fait, on fait une scénographie qui graphiquement, plastiquement est très 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 visuellement belle et en même temps et qui mène à des contemplations et en même temps on crée des happenings très rigolos, très 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 surprenants de manière à ce que l'attention de l'enfant aille toujours entre le rire et l'émerveillement. C'est vraiment ce rythme-là qui va nous donner la dramaturgie. Quoi.
Qu'est-ce qui fait que votre compagnie, je crois que vous êtes originaire de la Côte d'Azur, qu'est-ce qui fait que votre compagnie s'est intéressée au théâtre pour très jeunes enfants, je le rappelle, pour les enfants à partir de 18 mois? Qu'est-ce qui y a de fascinant dans cette émergence de spectateurs?
Eh bien, nous, il y a 10 ans, quand on a commencé à travailler avec le très jeune public, on s'est vraiment dit que les crèches étaient un endroit un peu orphelin du théâtre. Et aussi, on s'est dit que ce qui se vivait émotionnellement à cet âge-là est vraiment absolu. Et donc, c'est vraiment un défi pour l'artiste parce que on a un public brut, quoi. Et donc, on s'est mis dans ce défi-là et du coup, il nous a transformés aussi.
C'est votre quatrième spectacle. C'est votre quatrième spectacle pour très jeunes enfants, je crois.
Oui, tout à fait.
On a évoqué un cocon. Il y a un personnage de chair et d'os sur scène, cette femme qui est sur les toits et qui voit apparaître une deuxième lune, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est, en fait, le Little People, il vient du dédoublement de la lune. Et donc déjà ça c'est un motif poétique très fort et elle va être prise dans cette extraordinaire dans ce monde qu'elle a l'habitude de voir la lune et puis tout d'un coup il y en a deux et il faut se mettre à sa place et puis elle est embarquée dans cette succession d'invitations par Little People et du coup sa solitude va totalement se transformer. C'est-à-dire qu'elle va aussi sortir de ce spectacle ou de ce toit-terrasse, puisque c'est là le lieu scénique, différente de quand elle est rentrée.
Ce qui fait exister aussi la marionnette, et en l'occurrence vos Little People, c'est le regard de cette femme aussi. C'est la considération qu'elle a pour eux en tant que créature vivante.
Oui, En fait, par son intermédiaire, on va rentrer dans le monde de Little People. Si elle n'était pas montée sur ce toit, on ne serait pas là, en fait. C'est vraiment, elle est notre messager humaine dans leur monde, en fait. Et voilà.
Alors, c'est un spectacle, faut le préciser, pour les parents qui souhaiteraient y emmener leurs très jeunes enfants, c'est un spectacle volontairement très court, une demi-heure, c'est ça?
Oui, parce que la capacité de suivre un fil narratif pour les très jeunes est court par rapport au spectacle standard, par rapport au spectacle adulte. Par contre, du coup, en une demi-heure, il faut qu'il y ait énormément de matière.
Ça amène à concentrer l'écriture, finalement.
Ah oui, ça, oui, tout à fait, tout à fait, et à trouver beaucoup, beaucoup de ressorts scénographiques pour faire vivre les marionnettes.
Alors, si mes informations sont exactes, bon, vous avez 3 dates à Cergy-Pontoise avec des horaires différents. On mettra le lien sur le site. Vous y serez le 31 juillet, le 1er août et le 2 août.
On a 4 dates. Alors, a 4 représentations.
J'ai
le 2,
oublier.
Il y en a 2.
Ah, le 2, il y en a 2. D'accord. Ce sera sur l'île de loisirs à Cergy-Pontoise. Mais auparavant, vous serez allé au Festival Off d'Avignon. Qu'est-ce qui fait qu'on part avec un spectacle comme ça à Avignon?
Ah ben, Avignon, en fait, c'est déjà un lieu incontournable parce que voilà, toutes les propositions artistiques qui arrivent à y aller sont des propositions artistiques souvent belles et fortes. Il y a tous les programmateurs et puis il y a énormément aussi de familles. Et les propositions pour très jeunes publics sont très rares. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Avignon, mais quand vous vous retrouvez avec un tout petit à Avignon, vous avez peut-être sur les 1600 spectacles dans la journée, vous allez peut-être aller 20, 30 pour les très jeunes publics. Donc nous, on se fait fort de le défendre, ça. Et dans un lieu en plus qui est bien, qui est un lieu, le Totem, il n'y a que du jeune public. Donc voilà, on va rencontrer beaucoup, beaucoup de familles.
Alors voilà qui nous a donné très envie de rencontrer ces little people. Rémi Lambert, que ce soit sur l'île de loisirs de Cergy-Pontoise ou auparavant au Festival Off d'Avignon. Rémi Lambert, merci.
Merci beaucoup, Eric.
Radio Scénique par Éric Dotter. Le théâtre sur Aligre FM.
Oui, le théâtre sur Aligre FM. Et après être sorti de Paris, voici que nous y retournons. Et c'est plus précisément aux Bouffes du Nord que nous convie Yanofsky. On avait quitté le musicien chanteur avec l'aventure, hélas, trop tôt inachevée de sa superbe comédie musicale Adèle Berry. Au passage, on espère la revoir très rapidement. Mais le voici qui revient à Paris, en compagnie de son complice compositeur Corentin Appareilly, pour nous proposer un double conte musical. Extrait.
Thank you.
Janowski, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est à partir d'un conte, Le Masque de la Mort Rouge d'Edgar Allan Poe, mis en scène par André Caplet, que vous avez dessiné ce projet de la Louve. Racontez-nous. Il y aurait donc deux contes qui se répondraient. Alors, de quoi... oui, de quoi parle Le Masque de la Mort Rouge et de quoi parle votre Louve? Racontez-nous tout.
Alors, je vais tout vous raconter. À l'origine, c'était une volonté de la Belle Saison, hein, c'était tourné une musique classique, qui avait envie de marquer un petit peu le 21e siècle par une nouvelle fantastique, mais en musique. On connaît évidemment le Masque de la Mort Rouge d'Edgar Allan Poe, mis en musique par Caplet.
Eh bien, justement, non.
Eh bien, oui, justement, là, c'est mis en musique par Caplet.
D'accord.
Pour les Bouches du Nord.
Alors, ça parle de quoi Tout le monde ne connaît pas ce conte.
Bien sûr, tout le monde ne connaît pas. Alors, Le Masque de la Mort Rouge, c'est une des nouvelles extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Et alors, ça a une grande résonance, puisque nous sortons, il y a peu de temps, hélas, d'une pandémie, et il s'agit en fait d'une invasion de peste dans un village qui semble être dans une ville, semble être une ville ou un village médiéval. Et donc, le roi, le prince du royaume, décide de s'enfermer dans son château avec tous ses sujets et de continuer à faire la fête, tandis que tous meurent tout autour, jusqu'au moment où, eh bien, la mort rouge va apparaître à l'intérieur du château. Alors, autant de symbolique de ce qui est refoulé et du retour du refoulé de la mort, de la maladie. On peut l'appliquer à soi personnellement ou à la civilisation tout entière. Voilà. Donc, ça, c'est pour Le Masque de la Mort Rouge. Mis en musique par Caplet. Et puis dans un deuxième temps, il y aura une nouvelle fantastique que j'ai écrite, qui s'appelle La Louve, et qui est mise en musique par un jeune et très talentueux compositeur, Corentin Apparelli.
Avec huit jeunes musiciens, on les a entendus tout à l'heure, je crois que c'était dans une résidence à la Chaise Dieu, dont on a extrait le morceau qu'on a entendu tout à l'heure. Moi, je propose une chose, c'est qu'on vous entende lors de cette même résidence à la Chaise Dieu, raconter, puisque vous êtes le conteur, raconter votre rencontre avec cette louve.
La louve m'attendait sur le rocher de gypse, plus mystérieuse que jamais. Dans la même posture où je l'avais vue la première fois, elle était là, immobile. Dressée sur un roc obscur, ma silhouette découpée sur le ciel d'encre noire, elle ne bougeait pas. À cet instant, je compris qu'elle connaissait la raison de ma vie.
Alors cette louve, voilà, on a coupé de manière un peu brutale parce qu'on voulait pas révéler le suspense. Cette rencontre avec la louve, en quoi est-ce qu'elle répond au masque de la mort rouge?
Alors, elle répond dans la définition qu'on donne au fantastique, puisque on a tendance à déjà confondre le fantasy, c'est-à-dire un monde imaginaire, la science-fiction, de l'anticipation, avec le fantastique, c'est-à-dire tout d'un coup le surgissement, l'immersion de quelque chose d'irrationnel dans la rationalité. Donc, c'est exactement la même chose entre Le Masque de la Mort Rouge et la louve, il y a cette apparition. On est d'abord sur une base rationnelle, et puis tout d'un coup, quelque chose qui surgit, qui vient briser la ration, en quelque sorte. Donc déjà, il y a cette réponse, et puis dans les deux cas, il y a une dimension qui a été refoulée. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans le fantastique, c'est que c'est une fenêtre qui s'ouvre par cette brèche irrationnelle sur les profondeurs de l'inconscient. C'est ça qui est intéressant, parce que sinon c'est juste anecdotique et c'est juste un effet littéraire. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on va plonger dans les méandres, dans l'inconscient, dans les conflits intérieurs, et qu'on va révéler et porter au visible ce qu'on ne voulait pas voir. C'est le sens du mot théâtre, non très, je ne vais pas intellectualiser, mais rendre visible l'invisible. Voilà, je suis le conducteur entre les deux.
Janowski, si je vous dis que vous êtes quelqu'un de la fin du 19e, début du 20e, parce que vos racines, elles sont là, hein, quand on considère Adèle Berry, cette formidable comédie musicale dont on avait vanté ici les mérites, et maintenant Edgar Allan Poe, il y a quelque chose qui vous a bloqué à une époque, ce fantastique, si on prend Lovecraft, si on prend Edgar Allan Poe, c'est un fantastique qui est ancré dans une époque.
Alors effectivement, c'est ancré dans une époque, et je pense que j'ai un tout petit peu réfléchi, que c'est la volonté de créer quelque chose d'universel. Et si tout d'un coup on l'ancre dans nos problématiques, alors il y a des gens qui sont très 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 bien, de parler des problématiques sociales actuelles, etc., mais finalement on s'enferme. Et moi j'ai plutôt la volonté de créer quelque chose qui soit archétypique et qui parle à l'humanité tout entière, n'importe qui soit atemporel. Voilà. Donc j'ai choisi le 19e, mais alors c'est vrai, mais j'aurais pu choisir le 18e, le 17e, le ménage. Bon, là, c'est vrai qu'il y a une récurrence, vous avez raison, entre ces deux contes.
Alors parlons de la forme, c'est un conte musical, c'est-à-dire que vous êtes au pupitre, vous narrez cette histoire avec votre voix, votre stature, votre haute stature impressionnante. et rappelons, vous faites environ 2 mètres, hein, c'est, donc ça apporte un petit peu au récit. Et derrière, vous avez ces musiciens, alors c'est un tapis, c'est une illustration, c'est une mise en tension. Comment est-ce que votre confrère et compositeur musical a conçu cette bande musicale? On rappelle que c'est Corentin Pareillé avec lequel vous avez travaillé, qui a composé.
Mais oui, alors je vais essayer de parler à sa place. Corentin Pareillé, je pense qu'il a travaillé vraiment comme de la musique de film. C'est-à-dire qu'il a habillé chaque passage, chaque ambiance, l'arrivée dans la montagne, l'apparition de la louve et tous les drames qui surgissent, avec vraiment un travail d'alchimiste qui accompagne la lecture. Et puis après, on a fait, lui et moi, un travail aussi de ping-pong, c'est-à-dire de couper dans le texte parce que c'était trop long. Et voilà, c'est de la musique de film, véritablement. Sauf que le film, eh bien, ce sont les spectateurs qui, j'espère, vont le projeter sur l'écran de leur ennui et de leur psychisme.
Alors, une fois de plus, il y a un projet très ambitieux sur lequel est votre nom. Mettre sur scène, je crois, 8 musiciens, un orchestre de chambre un peu enrichi, puisqu'il y a il y a une trompette, il y a des cordes, évidemment, il y a de la percussion, et j'en oublie certainement. C'était une volonté aussi d'avoir du monde sur scène, d'avoir quelque chose de riche, au lieu, ça aurait parfaitement pu être piano-violon, par exemple.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a tout un tas, il y a toute une panoplie de couleurs, hein, dans cette histoire, la Louve. Et donc, il fallait pouvoir illustrer tout ça. Et puis, derrière ça, c'est aussi la création d'une académie, hein, l'Académie de la Mille Saisons, et qui est une sorte de tremplin pour les jeunes musiciens. Ils sont tous extrêmement talentueux et curieux. Voilà. Donc, c'est un tremplin pour eux. Ils ont été sélectionnés au CNSM. Et c'est un tremplin aussi pour eux, pour se jeter dans le monde. On dirait un pied déjà bien prêt. Mais pour répondre à votre question, effectivement, oui, c'est ambitieux, mais on aime ça.
Alors, est-ce que c'est pas une de vos caractéristiques aussi, c'est d'attirer à vous la jeunesse des talents? Dans Adèle Berry, c'était de jeunes danseurs, chanteurs, comédiens que vous aviez dans votre sillage. Ils étaient 13 ou 14 sur scène, en plus des 4 musiciens. Là, vous avez 8 musiciens. Vous avez cette volonté là d'entraîner dans votre sillage de jeunes talents?
Mais oui, parce que je commence à rentrer déjà dans un âge assez certain. Et donc, j'ai envie. Alors, c'est un échange. J'ai envie de faire profiter ces jeunes gens. Et puis, moi aussi, je bénéficie de leur énergie, de leur joie, de leur curiosité, de leur folie. Donc, c'est un véritable échange. C'est un cercle vertueux.
Janowski, je peux pas m'empêcher de poser une question qui est due à la frustration extrême de l'arrêt trop rapide de l'exploitation d'Adèle Berry suite à des choses qui ne sont pas forcément passées idéalement avec le théâtre où vous étiez programmé. Quand est-ce qu'on aura le bonheur de revoir Adèle Berry qu'on avait, nous, adoré et que le public avait adoré, que je crois même la critique avait adoré? Quand est-ce qu'on reverra ce spectacle ambitieux ancré dans le Londres du 19e siècle?
Mais oui, alors déjà on a eu 4 nominations, l'Amitié musicale, et lundi dernier, on a eu la chance de bénéficier du trophée de la meilleure musique et de la meilleure partition. Et ça, c'est toujours aussi, ça donne un élan nouveau à la comédie musicale si on veut la rejouer. Ben, on est en train d'y travailler. Donc, je lance d'ailleurs nous sommes en train de rechercher un nouveau théâtre pour la rentrée, en tout cas entre octobre et janvier, février 2027. Et on y travaille. En tout cas, on n'est pas prêt à laisser tomber cette comédie musicale qui a eu un tel succès auprès du public et de la presse.
Oui.
Ça, je peux vous l'assurer.
Eh ben merci, Yanofsky. Et on peut vous assurer qu'Aligre FM vous suivra, continuera à suivre vos aventures. Yanofsky, rappelons que le 29 juin, je crois que c'est à 20h au Théâtre des Bouffes du Nord, on aura le plaisir de vous voir narrer deux contes, dont votre conte La Louve. Le spectacle comporte d'ailleurs le titre générique de La Louve. Yanofsky, merci.
J'ai rendu mon cancer à la dame de l'accueil. J'ai repris mon orgueil. J'ai passé la frontière. Je cherchais la clairière. Fugitif ordinaire, j'ai battu la fougère. Et le vent dans les feuilles déjà m'avait à l'œil. Je cherchais la clairière. Je cherchais la clairière, on m'en cachait le seuil. Là-bas, un écureuil dansait avec mes nerfs. Je cherchais la clairière. Je cherchais la clairière. Soudain, l'oreille qui cueille la rumeur d'une colère meurtrit la meute qu'on veuille s'écarter de l'ornière. Je cherchais la clairière. Je cherchais la clairière. On lâcha les cerbères, on mit le feu aux feuilles et j'étais le chevreuil bondissant ventre à terre. Chercher la clairière. Et les hélicoptères, vrombissant phare ouvert, tiraient sur mon cercueil. Et j'étais le chevreuil dans les flammes de l'enfer. La folie pour prière, je cherchais la clairière. Je cherchais.
Radio Scénique par Éric Dauterre, le théâtre sur Aligre FM.
Oui, vous êtes bien sur Aligre FM et Radio Scénique vous entraîne dans les chemins de traverse du théâtre. Nous voici repartis sur la route des festivals et celui d'Avignon, version off en particulier. Voici donc un extrait de La Clairière, un texte de Stéphane Gioberti, mis en scène par Jérôme Vaquier, qui est également dans la distribution de cette pièce. Une pièce qui nous amène à réfléchir avec talent sur l'étrange, l'étranger, l'étrangeté. On écoute.
Personne ne vit derrière le mur, tu le sais aussi bien que moi. Nous sommes au centre d'une grande clairière. Derrière ce mur d'enceinte, c'est un grand terrain vague.
Oui, mais après le terrain vague, mon cœur, c'est la forêt qui nous entoure.
Et alors ?
Esther ! Tu es là ? C'est parce que de l'autre côté, le monde est de moins en moins sûr, de plus en plus sauvage, précisément.
Mais quoi ? Oh mon Dieu ! Le mur !
On nous a volé notre mur. Un mur gigantesque qui faisait le tour de la résidence. Et attention ! La prochaine fois... Pas de prochaine fois, ok ?
Watanabesan. Tolankununa kanina
galibaska. Depuis quand tu parles japonais, Pierre ?
Esther !
Ok, chérie. J'appelle la police.
Ok, je vois. J'appelle la police.
Défense d'entrée, zone contaminée.
Sonny !
Ah ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ?
N'existe pas, n'existe.
Qu'est-ce que vous faites dans la niche de mon chien ?
Oh mon Dieu, quelle horreur ! Vous vivez dans la forêt !
Non ! Nord de forest. Où je n'ai pas assez, now. Dans Gramsperin.
Maintenant, c'est chacun pour sa gueule. Et c'est très bien comme ça.
Ils nous regardent.
On fait quoi ?
On leur fait des signes.
Ça va pas, non ? Ils pourraient croire qu'on les invite. Vous voulez qu'ils viennent chez nous avec leur misère et toute leur sauvagerie ?
Non.
On est entre gens civilisés dans cette clairière.
Et Jérôme Vaquier, bonjour.
Bonjour.
On a mis un petit bruit de clairière, on a pensé que ça vous ferait plaisir. Alors, la clairière, c'est l'histoire d'un couple de retraités qui, comme d'habitude, le soir, regarde descendre le soleil derrière le mur qui ceint leur résidence sécurisée. Et un jour, patatras, le mur disparaît. Et donc, c'est leur monde qui s'effondre, en quelque sorte.
Du coup, le début de la pièce commence ainsi, et ensuite il y a aussi d'autres personnages. Il n'y a pas que deux jeunes retraités. Il y a aussi en fait différents personnages dans la pièce qui, quand on est dans un monde sécurisé et que finalement le mur représente le fait que l'intérieur il soit en sécurité, que le mur disparaisse, et bien que vont-ils trouver derrière le mur, que vont-ils voir derrière le mur, est-ce que la forêt est envahie par des sauvages ou pas. Donc en fait, c'est comment chacun s'est construit un monde aseptisé, un monde avec la peur de l'autre, et donc finalement quand il y a la possibilité de rencontrer l'autre, comment chacun des protagonistes de la pièce vont-ils pouvoir se comporter.
Alors, lorsque Radio Scénique a débuté sur les ondes d'Aligre FM, on a décidé de suivre le parcours de ce texte de Stéphane Gioberti, depuis la première lecture jusqu'à la mise en scène. Vous diriez qu'aujourd'hui, on en est à la consécration avec ce voyage vers Avignon. C'est quasiment... C'est combien de... 3 semaines de représentation?
Oui, alors en fait, effectivement, le projet, il a commencé en 2024. Du coup, vous aviez assisté à une lecture en septembre 2024, dans l'Oise, à Senlis exactement, et le temps de monter la production, le temps de monter le projet. Nous avons pu jouer cet hiver, 20 représentations du spectacle. Donc, on l'a créé sur 2024-2025, et en 2025-2026, on a pu jouer le spectacle 20 fois, et là, en fait, on a pris la décision de présenter le spectacle à Avignon, qui est toujours un endroit délicat aussi, quand même, à Avignon. Donc c'est la joie de pouvoir jouer 20 représentations, mais c'est aussi, en fait, l'inquiétude de savoir si comment va être apprécié, comment le spectateur va-t-il venir assister au spectacle, étant donné qu'il y en a 1800 qui sont présentés à Avignon. Voilà, donc oui. En fait, c'est comment là. Du coup, la joie est là, et après, il y a aussi une inquiétude. Avignon est un passage un peu, des fois, encore obligé pour les compagnies. Et après, c'est un coût financier très important. Donc, c'est une réflexion à avoir en amont, savoir si on descend à Avignon ou si on ne descend pas. Voilà.
Parmi la foule de spectacles, et on n'arrête pas de le dire ici, parmi la foule de spectacles, un seul comédien ou au mieux un comédien à piano, c'est de l'ordre du pari de monter une pièce à 7 personnages.
En fait, au départ, le choix entre, puisque c'est une collaboration avec Stéphane Gioberti, qui est auteur, Jérôme, donc metteur en scène, c'est une commande de texte où on a décidé de travailler ensemble. Donc la thématique au départ était sur la question du mur, et donc la clairière est née sur cette question. Un mur aujourd'hui se construit souvent entre deux voisins, donc qu'est-ce que ça raconte de notre société? Et on n'avait pas décidé du nombre de comédiens qu'il y aurait sur le plateau. Donc ça, c'était aussi... on n'avait pas limité les choses, ce qui fait que le projet est à 7 comédiens. C'est ravissant, en fait. C'est formidable de pouvoir monter un projet à 7 comédiens. Après, effectivement, c'est plus difficile à tourner à 7 comédiens que 1 ou 2 comédiens sur le plateau. Mais en tout cas, par contre, au niveau de l'équipe et au niveau du projet, de construction d'un projet, quand on a une grosse équipe, c'est toujours très enrichissant et toujours très... C'est très excitant.
Alors, on a eu la chance d'assister à plusieurs de vos représentations. Ce qu'on peut dire, c'est que vous y déployez l'artisanat dans ce que ça a dans ce que ça a de noble, l'artisanat du théâtre. Il y a un décor, il y a de la musique, il y a des comédiens qui sont tantôt drôles, tantôt un peu tragiques, tantôt pitoyables. Vous cherchez comme ça à offrir un spectacle de distraction, mais de qualité, avec un message. Alors, est-ce que le mot distraction est un gros mot dans le théâtre?
Est-ce que le quel mot est
le
un
mot
gros
de distraction? Divertissement.
Bah, je pense que dans le spectacle, il y a un message, ouais. Je pense qu'il y a un message. Après, en fait, chacun est libre de recevoir ce message et d'en faire ce qu'il en veut après le spectacle. Après, ça peut être que divertissant si le spectateur le souhaite de prendre le spectacle comme étant divertissant, mais je pense que ça va plus loin que le divertissement. En fait, le spectacle, il pose vraiment la question sur le, qui sommes-nous et quels sont, en fait, est-ce que tous les êtres sur Terre ne sont-ils pas les mêmes, en fait? Et pourquoi avoir peur et l'inquiétude, finalement, d'une personne qu'on ne connaît pas?
En tout cas, vous choisissez pour explorer ça, dans la manière dont vous dirigez vos comédiens, d'explorer toute une palette d'émotions, d'intentions de vos comédiens.
Oui, alors après, je trouve que c'est vrai qu'il y a le spectacle, il y a un fond avec une réflexion, mais il y a aussi beaucoup d'humour, et ça, je pense que c'est aussi grâce à l'auteur qui a su mettre, en fait, dans son texte des questionnements, mais aussi d'y mettre, insérer pas mal d'humour, et c'est vrai que finalement, les comédiens se sont, grâce à la direction d'acteur ou grâce à la mise en scène, se sont appropriés ces jeux de mots ou ces moments drôles et ces moments profonds, s'il y a d'émotion, puisqu'on apprend en fait que le soleil n'est pas seulement le soleil dont vous parliez au tout début en fait de l'interview, n'est pas seulement un soleil. Finalement, on apprend petit à petit. Il y a beaucoup de finalement il y a le mur physique qui tombe, mais aussi tous les personnages ont leur mur psychologique qui tombe les uns à la suite des autres, puisque finalement, en étant sécurisé, en étant à l'intérieur de ce monde sécurisé, ils pensaient aussi qu'ils pouvaient se sécuriser eux-mêmes et ne pas avoir de failles, et finalement, en fait, les failles de chacun tombent les unes à la suite des autres, et c'est là aussi où il y a pas mal de suspense dans la pièce, puisqu'on apprend, il y a des fausses pistes, puis on apprend des choses.
Il y a de la tension dramaturgique. Oui. Cette année va marquer les 60 ans du Festival of d'Avignon. La compagnie des Lucioles, qui est votre compagnie, elle en est à combien de passages à Avignon? Ou vous-même?
Une quinzaine.
Alors, c'est quoi votre bilan au bout de 15 ans et...
Ah, ben, en fait, à Avignon, au bout des 15 ans, c'est toujours, je sais que psychologiquement, avec la chaleur et tout, c'est toujours quelque chose de difficile à traverser, mais aussi avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Et après, en fait, Avignon, ça débouche sur des alors, chaque fois, les gens pensent que c'est sur des dates de diffusion. Et alors, c'est possible, il y a aussi des dates de diffusion, mais il y a aussi des rencontres humaines, il y a aussi d'autres projets qui peuvent se mettre en place. Avec d'autres, ça nous permet, en fait, finalement, nous, compagnie, de sortir de notre région.
Et oui, alors...
Les régions sont assez cloisonnées. Et,
oui.
Et finalement, en fait, d'aller, du coup, de rencontrer des gens qui ont... apprécier le spectacle, ça permet de construire des résidences avec des lieux, de construire des partenariats sur d'autres projets qui n'est pas forcément celui-ci, le projet d'après ou des choses comme ça.
Et votre région,
retournant à Avignon,
c'est que vous avez le projet pour le faire, l'énergie pour le faire et également que vous...
Et l'argent.
Et l'argent, et que votre compagnie y consacre l'argent nécessaire. Petite statistique, votre région, les Hauts-de-France, représente moins de 4% des 1432 compagnies qui seront présentes, sachant que c'est l'Île-de-France avec 37% qui emporte la majorité, suivie de PACA, ce qui fait sens. Ça vous inspire une réflexion?
Ça m'inspire. Il y a énormément quand même de compagnies des Hauts-de-France qui descendent à Avignon. Donc en fait, la région des Hauts-de-France soutient 9 compagnies sur,
54.
Une cinquantaine, dans 54 qui descendent. Voilà, donc donc beaucoup de compagnies descendent sans le soutien de la région. Donc je ne sais pas comment elles financent les projets. Après, bon, bah, c'est normal que l'Île-de-France, avec le nombre d'habitants, n'est pas le même. Donc, en fait, en Nord-Pas-de-Calais, enfin, en Haute-France, on est 5 millions, alors qu'en Île-de-France, c'est 30 millions.
C'est un pur reflet statistique. Dernière question, parmi les 141 théâtres et les 248 salles qui sont disponibles pendant le Festival d'Avignon, vous avez choisi la Factory, le théâtre de Loul. Il y a une raison particulière?
Ah, ça s'est fait, en fait... assez simplement, c'est-à-dire que le théâtre de Loul, la Factory, nous ont accueillis en résidence sur ce projet, La Clairière. Donc, on est allé travailler en début 2025 dans ce théâtre à la Factory. Ils nous ont accueillis 15 jours pour nous prêter le lieu pour nous permettre de répéter. Et donc, quand ils ont assisté à une sortie de résidence, et donc, du coup, le fait au moment de choisir où nous avons pris la décision d'aller à Avignon et on leur a demandé si c'était possible de jouer chez eux, ça a été oui tout de suite.
Et voilà. Ben voilà. Voilà. Et donc, pour vous retrouver, c'est à partir du 5 juillet, si je
Non, du 3.
Ah, du 3 juillet.
Non, du 3, oui, nous, du 3 en fait. Juillet. Du 3, nous.
Alors, voilà. À partir du 3 juillet, on vous retrouve au théâtre de Loul pour la Clairière. Oui,
à 15h30.
À 15h30, voilà. On n'aurait pas manqué de le préciser. Jérôme Baquet, merci. Écoutez, on continuera à suivre votre projet, y compris à Avignon. Merci encore.
Merci beaucoup, merci.
Fin de ce numéro 32 de Radio Scénique, votre émission de théâtre sur Aligre FM 93.1. Merci à nos invités. Attention, prenez de quoi noter parce que j'ai plein de rendez-vous à vous donner. Alors, dans l'ordre d'apparition au micro, merci à Marika Assik, cofondatrice et metteuse en scène de la compagnie Bivouac. Son spectacle Perception fera l'ouverture du festival L'Île-de-France fête son théâtre le 3 juillet sur l'île de loisirs de Créteil. Plus d'infos sur le site de la radio. Notre deuxième invité, c'était Rémi Lambert. Merci à lui. Sa compagnie présente un spectacle de marionnettes intitulé Little People. Vous pourrez le voir sur l'île de loisirs de Cergy les 31 juillet, 1er août et 2 août. On vous mettra en ligne également le lien menant aux horaires. Il sera également au Festival d'Avignon dans le Off à 10h30 au Théâtre Totem. Merci à Janowski qui est venu nous présenter sa nouvelle création à conte musical accompagné d'un octuor de jeunes et talentueux musiciens. Ça s'appelle La Louve et c'est le 29 juin à 20h aux Bouches du Nord. Et enfin, le seul spectacle d'Avignon que nous ayons déjà vu et apprécié, c'est La Clairière. On a reçu son metteur en scène qui est également l'un des interprètes. Il s'appelle Jérôme Vaquier. Son spectacle est à retrouver pendant le off d'Avignon à la Factory Théâtre de Loul à 15h30. Merci à Pierre Demkoff, mon fidèle assistant et programmateur musical. Merci également à Enrico Mastrogiovanni, devenu de fait le technicien de référence de Radio Scénique. Mais aujourd'hui, c'était Anatole Pain qui était à la régie. Et enfin, un immense merci au moment qui nous héberge dans ces superbes locaux, permettant à Aligre FM de travailler dans les meilleures conditions possibles. Alors, si vous voulez connaître la liste des morceaux programmés ou tout simplement réécouter notre émission de ce jour, c'est sur aligrefm.org, rubrique podcast, émission Radio Scénique. On se retrouve à la rentrée, si tout va bien, même lieu, même heure. Rappelons que Radio Scénique est diffusé les 2e et 4e lundis du mois. En attendant de se retrouver, allez dans les salles voir du théâtre, c'est là qu'est la vie.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.